On va parler de ces enfants du placard maintenant. Hein. Je rappelle que vous êtes anthropologue, que vous travaillez sur ces questions d'ailleurs dans au CHUV, hein, dans un aspect médical. Vous venez des sciences sociales, vous n'êtes pas médecin, vous êtes anthropologue, mais vous travaillez dans les répercussions finalement des politiques sur la santé des gens. C'est ça le job?
Oui, l'Institut des humanités en médecine est un institut qui est un peu à l'interface du CHUV et de l'Université de Lausanne, et les personnes qui travaillent, principalement des chercheuses et des chercheurs, proviennent des sciences humaines et sociales, donc l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, la philosophie. On s'occupe aussi d'éthique médicale, de droit, de la santé. Donc voilà, tout ce qui n'est en quelque sorte pas clinique, mais dont la perspective est fondamentale pour mieux comprendre les interactions et les risques aussi dans les formes de prise en charge. Et je pensais que c'était indispensable de parler de l'histoire des enfants du placard aussi comme un enjeu qui n'est pas seulement un enjeu historique et du passé, mais un enjeu de santé publique actuelle en raison des répercussions qui sont encore présentes.
Alors on va en parler, on va venir dès le début. Hein. Qui ils sont? Bon, on l'a compris, c'est votre cas, vous êtes né ici mais vous êtes en situation irrégulière, vous devez partir. C'est un enfant ou une enfant qui est née en Italie ou ailleurs, hein, on l'a dit, il y a d'autres pays qui ont été concernés, Espagne, Portugal, etc., les pays des Balkans, qui ne peut pas venir avec ses parents, donc qui est confié à une tante, à la nonne, à la grand-mère, ou parfois même dans des institutions. Hein. Et ces enfants-là grandissent pendant un certain nombre de mois, d'années, sans leurs parents?
Oui, alors, pour celles et ceux qui ont été obligés de partir, ou qui ont été expulsés, il faut le dire, donc c'est grandir, effectivement, comme moi, sans connaître ses parents, ou voilà, des parents qui sont perçus un peu comme des, peut-être, un oncle et une tante, voilà, des
étrangers
pour les vacances. Mmh. Voilà. Ensuite, il y a aussi les enfants, bien sûr, placés dans des institutions d'enfants, notamment au-delà de la frontière, à Domodos, la Casa del Fanciullo, et parfois pendant de longues années, et qui ont
des internats, en
des internats, ouais. Effectivement, là aussi avec dans des situations parfois extrêmement dramatiques sur le plan des séparations de leurs parents, mais aussi des formes, on va dire, d'éducation qui n'étaient pas du tout celles que l'on connaît aujourd'hui. Il y avait aussi des formes de placement entre guillemets en Suisse. Auxquelles j'ai été confronté dans mes interviews, peut-être moins dramatique que celle qui avait lieu dans ces internats, mais où les enfants en quelque sorte étaient séparés pendant toute la semaine, alors qu'on ne les voyait pas pendant toute la semaine, ils avaient le droit de les voir qu'une fois par semaine, une ou deux heures. Voilà, c'était un peu une sorte de compromis que certaines communes, autorités...
devaient avoir un monde associatif pour cela.
Exactement. Et ça laissait des traces aussi.
Bon, il y a aussi, dans les fratries, on prenait le petit parce qu'il venait de naître, et puis on le cachait un peu, il était clandestin, et puis on laissait l'aîné en Italie, ça veut dire une fratrie qui vit séparément, où les rancœurs s'accumulent, on constate ça. Hein.
Bien sûr, alors les enfants de placard à proprement parler... ce sont ceux qui ont été cachés, soit dans les appartements ou ailleurs en Suisse. Donc, on pourrait dire qu'ils ont vécu avec leurs parents, mais
dans quelles conditions,
hein. Voilà, sous les injonctions, voilà, de s'effacer complètement, de ne pas faire de bruit, ils ne pouvaient pas évidemment aller à l'école.
Il y a des témoignages poignants dans le film. Hein. Il y a une dame qui dit quand j'entendais une sirène, je pensais jamais que c'était une ambulance ou les pompiers. Je pensais que c'était la police qui venait me chercher.
Voilà. Ouais. Donc vous pouvez imaginer l'épée de Damoclès qui pesait sur ses enfants et sur qui vivait par, j'ai presque envie de dire, par procuration, la terreur de leurs parents. Et cela amène à réfléchir en termes de transmission intergénérationnelle du traumatisme. Le stress d'expulsion qui est étudié ces dernières années, surtout par rapport aux migrants non régularisés comme les requérants d'asile, en fait, pourrait être aussi utilement, j'ai envie de dire, appliqué à cette population, aux parents qui ont dû cacher leurs enfants avec la peur au ventre. J'ai envie
c'est
dire.
Pour ça que ce travail que vous faites est intéressant, hein, parce que finalement, bon, j'imagine qu'il existe des documents, l'aspect législatif de ces permis de travail est bien documenté, mais les témoignages sont évidemment importants. Il y a une première génération, ceux qui venaient, bah, qui est plus là, ou qui est en tout cas très âgé, et puis il faut aussi recueillir les témoignages des enfants, de ces jeunes, comment ils ont vécu, etc. Puis là, on voit que à l'intérieur des familles, hein, il y a la culpabilité des parents, il y a parfois une certaine révolte des enfants, c'est difficile d'en parler, tout ça n'est pas anodin du tout. Hein.
Absolument, oui, c'est tout ce que j'appelle l'empire du silence, en fait, qu'il s'agit peut-être un peu de briser aujourd'hui, donc la communication, le dialogue intergénérationnel a souvent été empêché de par cette souffrance, ce qui a amené certains enfants, enfin on va dire seconda, d'essayer de chercher des réponses pour comprendre ces moments un peu restés dans l'ombre de leur vie.
Peut-être dans un deuxième temps, hein, parce que dans un premier, on comprend qu'ils ont plutôt essayé d'être plus suisse que suisse, de parler français. On voit d'ailleurs beaucoup de témoignages de deuxième génération. C'est un film qui est fait en italien par la radio-télévision suisse italienne et qui s'exprime en français ou en allemand parce que probablement ils ne maîtrisent pas assez l'italien pour répondre aux journalistes.
Il y a de cela, effectivement. Mais il y a effectivement... Alors, on l'a vu aussi dans le cadre du film Les années Schwarzenbach, où on a interviewé des personnes de première et de deuxième génération. Cette volonté d'hypercorrection, d'une certaine façon, de se conformer le plus vite possible, par exemple en faisant le service militaire, en apprenant bien
les
correctement
langues,
le français, voilà. Et là, souvent en l'interdisant à ses propres enfants, donc à la troisième génération, en tout cas en faisant en sorte de ne pas leur faciliter le travail, voilà.
Pour apprendre la langue d'origine.
Voilà. Ouais. En tout cas, c'est un témoignage qui est ressorti.
Il y a un témoignage dans le film, hein, d'une femme qui dit, quand j'étais gamine, je voulais tellement être comme les autres à l'école. Pour le coup, là, elle était plus dans le placard, hein, elle était scolarisée, que quand on lui demandait ce qu'elle mangeait, elle disait, je veux pas dire que je mange des pâtes presque tous les jours. On l'a pas dit, mais la plupart des gens qui venaient étaient pauvres, hein, évidemment, ils venaient chercher du travail. Donc je disais que je mangeais la fondue, puis on m'a dit, mais tu manges la fondue tous les jours? Je dis, oui, tous les jours.
Voilà, ça nous fait sourire maintenant, effectivement.
Parlant, ouais.
On peut peut-être aussi se mettre à la place de cette femme aujourd'hui. Et la souffrance que ça devait représenter de se nier, en quelque sorte, de nier son identité pour vouloir être comme les autres. La question de l'alimentation, elle est vraiment centrale. Maintenant, l'alimentation italienne ou méditerranéenne, de manière générale, elle est glamour, elle est glamourisée. Donc, plus personne n'aurait à dire quoi que ce soit, à critiquer finalement un régime qui est considéré comme convivial, sain, parfait, d'une certaine
L'empire
façon.
De l'huile d'olive.
Exactement. Voilà.
Bon, qu'est-ce qui se passait parce qu'on a parlé de la peur, de la sirène de police, etc. Ça arrivait, hein, que la police débarque à la maison. J'imagine qu'il arrivait aussi des dénonciations de voisins, des trucs pas très jolis. Qu'est-ce qui se passait? On chopait un gamin en situation irrégulière, il se passait quoi?
Alors là, les situations sont très variables. Il y a eu effectivement des expulsions.
Avec des délais courts. Hein.
Avec des délais courts. Par exemple, une personne que j'ai interviewée dans le canton de Neuchâtel m'a expliqué qu'elle avait déjà une fille, son aînée qui est née en Italie et qu'elle a fait venir, hein, alors qu'elle était toujours, les parents étaient saisonniers, et elle avait 9 ans, je crois, et l'un des premiers jours d'école, cette fille, qui est bien sûr adulte maintenant, a vu débarquer la police à l'école. Sa mère a reçu une lettre qui intimait les parents à la petite fille en fait de 9 ans de quitter la Suisse dans les 24 heures. Donc vous imaginez le traumatisme, l'impact lorsque cette maman qui a plus de 80 ans m'en parlait. Elle est évidemment en larmes encore aujourd'hui, d'autant plus qu'elle ne comprenait pas le français, donc elle a dû se faire traduire cette lettre, elle était allophone. Et donc le sentiment d'injustice qui a contribué aussi à la fracture entre les deux sœurs, la sœur cadette qui elle a été cachée dans une crèche on va dire bienveillante.
Elle est née qui a dû retourner au pays. Et qui en a eu une rancœur. On m'a abandonné, on m'a rejeté.
Exactement. Ouais. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose presque d'irréconciliable.
C'est votre travail d'aller scruter ce que développe ce genre d'épisode douloureux.
J'essaie.
Dans l'avenir, dans le présent, pour le coup de ces gens-là. On arrive gentiment au bout. On sent que l'émotion n'est pas loin. On a dit au début de cet entretien que vous avez vécu cette situation-là. On vous voit dans le film qui sera montré au Kremlin. La science, c'est aussi mettre à distance le sujet, pour être critique, pour penser contre soi-même. Parfois, vous y arrivez.
J'ai décidé en fait aussi d'accepter l'émotion. Je pense qu'elle fait partie de la recherche. Aujourd'hui, on peut plus évacuer ces dimensions vécues, expérientielles de notre travail. Je pense qu'une histoire ou une recherche de type participatif collaboratif, elle a tout à gagner de ces expériences. C'est clair que l'émotion peut créer des biais en termes de recueil des résultats et de leur analyse. Mais avec les précautions...
L'important, c'est d'en être conscient.
Tout à fait. Et avec les précautions qui s'imposent, je pense qu'on peut contribuer aussi à rendre beaucoup plus vivante l'histoire, beaucoup plus engagée aussi.
Aujourd'hui, évidemment, cette recherche concerne un événement passé, enfin une pratique passée, vous l'avez dit, c'est en 2002 que ces permis saisonniers ont été supprimés, non pas par bienveillance, mais parce que les accords bilatéraux avec l'Union européenne l'exigeaient. Mais votre travail, la soirée du Kremlin le 28, permet aussi de s'interroger sur la façon dont on traite aujourd'hui les personnes en situation irrégulière, dont on traite la migration en général. Dans nos pays européens, en Suisse, mais autour aussi.
Je dirais que c'est le but final, ou l'objectif final, c'est celui-ci. C'est non seulement de parler du passé, un passé qui a encore des séquelles, on va dire, en tout cas des répercussions aujourd'hui, mais c'est surtout de faire en sorte que nos souffrances, nos expériences servent à améliorer déjà la compréhension et les formes d'accompagnement, de prise en charge des migrants en situation non régulière, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on l'a vécu, on le ressent vraiment au fond de soi, cette déchirure. Il m'est arrivé de discuter avec des personnes en situation irrégulière, qui ont été en situation irrégulière, mineurs non accompagnés, réfugiés, requérants d'asile. Et pour moi, c'était extrêmement enrichissant. De part et d'autre, c'était extrêmement enrichissant parce que ces personnes ne connaissaient pas non plus mon histoire et plus largement l'histoire des enfants dits du placard et de leur famille saisonnière.
Bon, merci à vous d'avoir participé à cette émission, Salvatore Bavilacqua. Je rappelle donc la soirée débat au Kremlin, c'est le 28 novembre avec ce film de la radio-télévision suisse-italienne La legge e tua, il bambino è mio, film de Renato Pugina qui sera diffusé, enfin qui sera projeté, et puis discussion avec vous et d'autres intervenants ensuite. Merci.
Radio Chablais, programme de nuit.
La minute hawaïenne.
Sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La minute hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Aujourd'hui, dans la minute hawaïenne, est-ce que tu connais l'ostéopathie? Alors, j'avoue que moi, j'ai découvert ça hier. Je sais pas comment dire ça. Je crois que jamais auparavant un homme ne m'avait touché comme ça. Un ostéopathe très calme et très délicat qui m'a dit qu'il ne me ferait aucun mouvement par surprise. Soudainement, on me prend par le bassin et c'est là qu'il exerce une pression à l'aide de tout son corps. Il me fait craquer. Non mais c'est difficile à mon âge de vivre des nouvelles expériences et là c'était clairement le cas. Au point que je me demande si je ne serais pas en train de me découvrir une nouvelle passion. Quelle sera la suite? Quelle partie de mon corps vais-je découvrir à travers une nouvelle expérience médicale? J'en frémis d'avance. Et comme toute expérience médicale digne de ce nom, j'espère qu'elle me fera autant de mal que de bien.
Là, il va pas se passer grand-chose. Ouais, on va bien garder les fesses à plat sur la table. Ouais, super. Et on détend complètement le dos vers l'arrière. Super, ça. Encore une fois. Super.
La Minute Hawaïenne
sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La Minute Hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet, mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
La chorale de la Sainte-Cécile à Viola fête ses 125 ans. Déjà quelques secondes pour parler quand même de l'histoire de la Sainte-Cécile avec Jean-Claude Cochard. Bonjour.
Bonjour.
Alors, 125 ans d'histoire, qu'est-ce que vous connaissez de son histoire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de son histoire?
Alors, la chorale a été fondée en 1899 par, ils étaient quoi, une trentaine, amoureux du chant. Et puis, bah, elle dure déjà jusqu'à maintenant. Donc, on a fait un joli livret de fête, d'ailleurs, où vous pourrez voir toute l'histoire de la chorale Sainte-Cécile d'où il y en a. Et moi, j'en fais partie depuis 20 ans. 20 ans, pour moi, c'est 20 ans d'histoire. Pour la chorale, c'est 125.
Et une grande soirée du 125e qui est donc organisée ce samedi soir à Viola. Expliquez-nous, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, ce samedi 30 novembre, donc à Viola, ouverture des portes 18h, concert 19h30. Alors la première partie, ça sera nous, le cœur d'homme. Donc nous allons, c'est une soirée rétrospective en fait. Donc on va reprendre un petit peu des anciens chants, plus des nouveaux chants qui retracent un petit peu l'histoire de la chorale. Ensuite, en deuxième partie, nous aurons le chœur Évasion. Donc, c'est un chœur fribourgeois qui nous vient de Sansol. Mais c'est assez paradoxal. Il est dirigé par un enfant du Yonaf, Flavien Trisconi.
Excellent.
Et en troisième partie, balle avec Mike jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Puis tous nos chants, en plus, pour faire participer les sociétés locales, seront présentés par la troupe de théâtre Entre deux actes de Viola.
Ah, c'est une grande, riche, belle soirée. C'est une soirée de clôture du 125e, parce qu'il y a eu des événements toute l'année. Une soirée meurtrimistée encore la semaine passée. Et là, cette soirée des 125 ans, c'est vraiment une volonté, je l'ai dit, de clôturer en beauté cette année 2024 et ce 125e.
Alors absolument, ça sera exactement ça. Donc on a eu le samedi passé la soirée Meurtre et Mystère qui a rencontré un franc succès. Et le week-end d'avant, on a chanté une messe pour les jeunes catéchères et puis pour l'intronisation des nouveaux servants de messe. Donc voilà.
Alors ce samedi, le rappelez donc, la soirée avec vous, la chorale et le cœur d'homme qui va chanter ses plus grands succès. Et puis tout ça animé par la troupe de théâtre, avec la collaboration, vous l'avez dit, de vos collègues de Sansal et la direction d'un vieux Nérou. Et puis ben voilà, tout pour dire qu'ensuite on finira au rythme des rythmes du DJ Mike. Donc tout ce qu'il faut pour passer vraiment une belle soirée, s'éclater et puis un peu soutenir la chorale, parce qu'on imagine que tout ce qu'on va dépenser, ce sera pour vous et pour aussi faire tourner votre association et votre cœur.
Mais absolument. Puis il nous faut un petit peu de sous. On a un petit peu. Nous sommes 11 chanteurs. Hein, donc voilà. Mais surtout, le plus important, c'est qu'on recherche des chanteurs. Je crois que c'est un petit peu le cas de tous les chanteurs.
C'est bien de passer le mot alors.
Vous voyez, on recherche des chanteurs, donc bien sûr, s'il y a des messieurs qui se sentent une âme de chanteur ou qui ont envie de rejoindre une équipe sympathique, c'est sûr qu'on va les accueillir à bras ouverts.
On rappelle donc...
Mais ils peuvent déjà venir à la soirée du samedi pour écouter ce qu'on fait, et peut-être qu'il y aura des personnes intéressées.
Et puis donc, toutes les infos sur chorale-viona.ch, chorale-viona.ch, les 125 ans de la Sainte-Cécile ce week-end. Merci d'avoir été avec nous.
Mais c'est moi qui vous remercie infiniment, en tout cas, pour le message. Et puis, venez nombreux nous soutenir. Moi, j'espère une salle pleine pour notre 125e anniversaire.
Merci beaucoup, à bientôt, bye-bye.
Merci, au revoir.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
On commence ce mag en parlant d'un anniversaire un peu spécial, ou plutôt d'un triple anniversaire. Julie Gay, bonjour.
Bonjour Loïc, ça se passe du côté de l'hôpital Rivière à Chablais qui fête les 5 ans de son grand site à Réna.
Et comme je le disais, à cette date s'ajoutent deux autres anniversaires.
Exactement, les 10 ans de la reprise de l'exploitation des sites de la Fondation des Hôpitaux de la Riviera et de l'Association de l'Hôpital du Chablais, et les 15 ans de l'adoption par les cantons de la Convention intercantonale relative à l'HRC Vaud-Valais.
Aujourd'hui, on peut dire que l'HRC est un acteur majeur pour la santé dans toute notre région, et en même temps, c'est un peu pour ça qu'on l'a construit.
Bah exactement, Loïc. En fait, cet hôpital, on pourrait dire qu'il incarne l'alliance entre Vaud et le Valais au service de la santé. C'est une institution un peu unique parce qu'elle réunit plusieurs sites et gère un bassin de près de 200 000 personnes. On va découvrir tout le chemin parcouru avec notre invité, le directeur général de l'hôpital Riviera-Chablais, Christian Meucli.
C'est un moment intéressant de s'arrêter et de regarder en arrière et en avant. C'est un triple anniversaire. Donc, il y a 15 ans, la convention intercantonale était signée et cette convention est déjà le fruit d'un long, long travail. Ça faisait des années que les deux cantons se parlaient, qu'il y avait eu des réflexions dans la planification hospitalière. Ensuite, il y a 10 ans en arrière, toujours sur les différents sites, sur les 5 sites de soins aigus, les deux hôpitaux de la Riviera et du Chablais étaient mis ensemble dans une seule organisation. Et ensuite, il y a 5 ans en arrière, l'arrivée ici à Reina, qui est évidemment le moment pour nous et pour la population. C'est là que ça a véritablement changé dans la vie de toute la population, finalement.
Vous avez évoqué du coup ces 3 anniversaires, on va en parler, hein, de ces 10 ans, de ces 15 ans. On s'arrête d'abord sur le plus récent, finalement, les 5 ans de l'ouverture de l'hôpital à Reina. Comment ça a évolué depuis son inauguration, ces 5 ans?
Nous pensons que ça a bien évolué après des débuts un peu mouvementés. C'était tout au début le déménagement, c'était le Covid aussi. Mais entre-temps, on constate vraiment avec plaisir que l'hôpital a trouvé sa place et l'hôpital a surtout aussi trouvé ou conquis la confiance de la population et des partenaires. Donc pour la population, on constate année après année qu'une personne sur 3, une personne différente sur 3 de tout notre bassin de population a un contact avec nous par année. Donc on est maintenant l'hôpital de référence et c'est pour ça que nous sommes ici. Il y a eu d'autres moments forts ces dernières années. Je pense à l'ouverture, à l'inauguration de l'hôpital de Montet qui a une gériatrie et une réadaptation et aussi la permanence et quelques consultations spécialisées en proximité. Parce que finalement, c'était ça le pari, n'est-ce pas? De réunir ce qui doit être réuni et d'avoir du coup une qualité et une force de frappe au niveau à la fois technique et humain. On réunit ici à Reina, mais de garder un lien de proximité par l'antenne du côté de Montet et l'antenne aussi à Vevey, aujourd'hui à la Providence et dans quelques années au Samaritain.
Depuis l'ouverture du centre de Reina en 2019, l'hôpital s'est adapté, on l'a dit, aux besoins de la population, mais aussi aux évolutions technologiques et médicales. Concrètement, est-ce qu'il y a eu des changements de ce point de vue-là pour prendre en charge les patients?
Oui, il y a finalement une assez longue liste de développements cliniques qui étaient finalement uniquement possibles parce que nous sommes réunis ici et pas sur 5 petits sites. C'était ça le pari, n'est-ce pas, de la fusion. C'est pas simplement pour fusionner une organisation, c'est véritablement pour réunir les compétences des uns et des autres. Il y a 2 aspects. Il y a l'aspect technologique, donc comme c'est très technique et ça coûte cher, vaut mieux le faire une fois. Mais il y a aussi l'aspect humain, c'est des ressources spécifiques et on n'en a tout simplement pas assez pour faire tourner une médecine nucléaire tous les 5 ou 10 kilomètres. Donc d'un côté, ça permet de réunir les compétences et puis de l'autre côté, comme je viens de dire et on verra après, il faut aussi travailler en proximité autant que possible. Donc les développements un peu concrets, nous avons ces dernières années depuis l'arrivée ici, pu vraiment beaucoup développer l'offre à la population. Je pense à la cardiologie interventionnelle, je pense à la cardiologie interventionnelle, à la radiologie interventionnelle, du côté de l'urologie, il y a beaucoup de développement aussi. Notre maternité est et reste une des grandes. Nous sommes la 3e maternité de Suisse romande, après les HUG et le CHUV. En urologie, nous avons des développements importants. Nous allons pouvoir ouvrir une stroke unit. Donc, c'est une unité qui permet d'accueillir en toute compétence les personnes qui ont subi un AVC. Elle va ouvrir en février de l'année prochaine. Les soins intensifs étaient évidemment beaucoup plus développés dès l'entrée ici que c'était possible avant, et nous venons de les renforcer avec 2 lits supplémentaires. En néonatologie aussi, nous allons encore étoffer notre compétence. Tout ça, c'est finalement des prestations qui ont un sens très direct pour la population, parce que ça veut dire qu'il ne faut pas aller ailleurs pour ça, ou qu'il y a moins de risques de transfert. Si vous venez avec un certain nombre de difficultés, aujourd'hui, nous avons un niveau de prestations qui permet, dans la très grande majorité des cas, de prendre soin de vous dans l'ensemble sans devoir ailleurs, vous disloquez du côté du CHUV ou ailleurs. L'ensemble de ces développements, c'est à la fois vraiment intéressant pour le personnel, c'est plus stimulant pour les équipes. On a aussi tout de suite les compétences à côté, on peut développer des choses. Nous avons des gens qui sont motivés, ils veulent faire la différence, tant que c'est technologiquement intéressant. Mais aussi pour la population, en termes de sécurité et de qualité, on est vraiment dans un autre monde qu'il y a 5 ans en arrière.
Alors de belles avancées, de nouvelles mises en place hein, pour le bien de autant des équipes que la population, les bénéficiaires. Triple anniversaire pour cette année 2024 qui symbolise aussi les 15 ans de collaboration intercantonale entre vos valets. Un travail main dans la main, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on a des avantages qu'on peut constater grâce à cette collaboration intercantonale?
Je dirais l'intercantonalité était finalement une condition pour qu'on puisse construire un hôpital de cette taille-là pour cette population. On a deux régions, n'est-ce pas, le Chablais, qui est sur 2 cantons, et la Riviera. Et l'idée, c'est que si on réunit ces 2 régions, on a une taille significative, un peu plus que 200 000 habitants. Ça donne sens pour avoir un hôpital régional de référence. Et comme le Chablais est divisé par le Rhône et qu'il y a des Valaisans et des Vaudois, il fallait bien travailler en intercantonalité pour pouvoir réussir ce projet. Alors, très clairement pour nous, maintenant, on voit que la vision et le projet étaient tout simplement juste, ça donne sens, c'est correct. Et beaucoup d'autres régions nous ont envie d'avoir réussi ça. Mais il faut dire que même si en fait les 15 ans de la convention, le travail a commencé bien en avant. Je suis même tombé sur une ancienne convention entre l'hôpital de Zone d'Aigle et l'hôpital du district de Montet de 1997, où il parlait de libre circulation des patients. Donc on parlait de la libre circulation, le patient avait le droit de franchir le Rhône pour se faire soigner de l'autre côté. C'est déjà les prémices.
Un anniversaire qui marque le chemin parcouru de la libre circulation entre Vaud et Valais à l'ouverture du site de Réna il y a 5 ans. Cette semaine, la HRC célèbre sobrement avec passion et équipe, tout en continuant à préparer l'avenir.
Merci beaucoup Julie Gay.
De rien.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Voici le second sujet du MAC de ce jour. C'est un rendez-vous incontournable pour la solidarité, le samedi du partage. Et cette saison, en cette période de l'Avent, Julie Gay.
Exactement Loïc, un événement où chacun est invité à contribuer pour soutenir les plus démunis en donnant des produits de première nécessité en magasin.
Bah oui, parce que l'inflation, la hausse des loyers et les primes d'assurance qui font qu'augmenter continuent de peser sur de nombreuses familles.
Et ouais, c'est pour ça que cette collecte de produits de première nécessité prend tout son sens cette année. D'autant plus que les tabiauros ne prennent part à cette action. Je me suis entretenue avec son président Bernard Promont. Il nous parle de cette collaboration avec le Samedi du Partage.
On fait la récolte dans le canton de Vaud, notamment avec le Samedi du Partage, et l'association des Tables du Rhône est impliquée dès l'instant où on est présent à Aigle et à Baie, et que par conséquent, sous cet angle-là, sous cet aspect-là, on participe à cette récolte de denrées alimentaires.
Alors justement, pour que les auditeurs comprennent, vous présidez les Tables du Rhône, et les Tables du Rhône s'associent au Samedi du Partage pour subvenir aux besoins des personnes de la région.
Exactement, donc ça nous paraît aussi important qu'on puisse faire ce type de récolte 2 fois par année, c'est ce qui est fait d'ailleurs avec Samedi du Partage du canton de Vaud, et ça nous permet de compléter notre éventail de marchandises tout en sachant qu'on distribue quasiment 4 tonnes de nourriture, de denrées alimentaires à Aigle et à Baie chaque semaine.
J'allais dire, vous voyez que cette initiative, c'est utile et utile d'en prendre part pour vous, les Tables du Rhône. Près de la moitié des familles suisses peinent à joindre les deux bouts et ça s'aggrave, hein, notamment à cause de la hausse des primes d'assurance, des loyers, de l'inflation. Ces derniers temps sont durs, d'où la nécessité d'agir en ce sens.
Exactement, et tout à fait, on s'aperçoit que ça reste constant. On se dirait dans l'idéal qu'un jour, les Tables du Rhône pourraient disparaître. Ce n'est pas le cas parce qu'évidemment, il y a toujours une demande. Et puis, on sert aussi les réfugiés ukrainiens et d'autres types de réfugiés.
On voit que ces actions, elles portent ses fruits. Lors de l'édition de juin 2024, le Samedi du Partage a permis de distribuer 268 tonnes de produits de première nécessité. C'est des actions qui font du bien, qui s'intègrent bien avec ce que vous faites toute l'année finalement avec les Tables du Rhône.
Évidemment, donc comme j'ai dit avant, c'est un complément puisque nous, tous les jours, 3 ou 4 camionnettes partent et vont dans les grandes surfaces pour récolter de la marchandise et la redistribuer. Donc c'est aussi important, ça nous permet aussi de sensibiliser la population aux besoins qui existent et puis de se rendre compte que c'est aussi utile de donner.
Alors pour cette édition du samedi du partage, le 29 et le 30 novembre prochain, comment ça va se construire? Vous avez des bénévoles qui vont attendre devant les différentes enseignes et proposer au public de donner des denrées?
Alors dans le district d'Aigle, nous travaillons avec la Migros à Aigle, avec Lidl à Aigle. On travaille aussi avec la Migros de Baie et puis Lidl à Noville. Et puis nous avons des bénévoles qui, grâce aux gérants, et là il faut reconnaître aussi qu'on apprécie que les gérants des magasins fonctionnent, donc on se met devant, on peut utiliser les différentes infrastructures pour pouvoir faire la récolte de marchandises.
De la marchandise qui est précise ou pas, on demande souvent des denrées secs ou bien non périssables. Là, est-ce qu'il y a une carte blanche ou pas du tout?
Alors peut-être dire que les samedis du partage bénéficient d'un sac avec Titeuf dessus, donc c'est appréciable. Il y a aussi des tabliers, puis on leur propose des différents types de produits, tout en sachant qu'évidemment on évite des produits frais du style viande qui ne serait pas sous vide, ou bien du lait, etc. Parce que ça, on peut le faire différemment. Donc, il y a une panoplie, et certains magasins mettent déjà à disposition un certain nombre de produits qui peuvent être achetés par les différents consommateurs.
Alors, des produits que vous allez récolter, ensuite peut-être recenser, après redistribuer, donc un public cible particulier.
Un public cible particulier, donc on récolte, et ensuite, tout ce qui est dans le district qui est sous le label Samedi du Partage revient finalement aux tables du Rhône. On stocke et on redistribue cette marchandise parce qu'il y a des produits de longue durée, du style riz, farine, pour prendre ces exemples-là. Donc on les redistribue chaque semaine dans les différents lieux.
Alors les tables du Rhône qui s'associent au Samedi du Partage, si on est intéressé à donner nos temps en tant que bénévole, que ce soit pour les tables du Rhône ou pour ces deux jours d'action dans le district, c'est possible de le faire?
C'est possible de le faire encore puisque c'est fin de cette semaine, donc on peut appeler notre secrétariat si nécessaire. Je peux donner le numéro de téléphone de Stéphanie Paul.
024 471 5707.
Voilà, je constate que vous êtes très très bien renseigné.
Et puis, qu'est-ce que vous, peut-être en tant que président, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier peut-être à partager en amont de cette action? Et puis, un message peut-être pour la population qui peut être en mesure d'aider?
Alors écoutez, on se rend compte que les besoins sont là. On a des bénévoles qui font preuve de beaucoup d'empathie. Et aussi, il y a beaucoup de réceptivité aussi de la part de la population. On a des jeunes, tout d'un coup, qui arrivent et qui disent, écoutez, moi, je peux vous donner comme type quelque chose, mais ils le font finalement volontiers. On a des gens qui disent, écoutez, on vous donne parce que peut-être que demain, on aura besoin de vous, ou bien certains ont dit, on a eu besoin de vous avant. Et donc, cet effet de solidarité, c'est une chaîne de solidarité, puisqu'on a à la fois des magasins, des chauffeurs, des bénévoles dans les différentes tables. Et cette scène de solidarité, elle est quand même très proche, donc c'est aussi important. Je tiens à préciser, parce que des fois il y a des gens qui pensent que les responsables sont rémunérés, c'est pas du tout le cas. On a une coordinatrice à 100%, une secrétaire à 50%, et les 250 bénévoles sont réellement des bénévoles, donc il y a personne qui touche quelque chose. Pour la petite histoire, quelqu'un m'a dit, comme président, tu dois toucher beaucoup d'argent. J'ai dit oui, effectivement, m'a doublé mon salaire. C'est-à-dire que 2 fois 0, ça fait toujours 0.
Joli, c'est très joli dit. Le message sera passé, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Un petit geste de chacun qui peut faire une grande différence, Julie Gay.
Exactement, alors rendez-vous les 29 et 30 novembre pour le samedi du partage dans la région. C'est à Aigle, Baie et Neuville que ça se passe.
Radio Chablais. Programme de nuit.
On termine ce mag avec un sujet un peu plus poétique pour les amateurs de lecture. L'association Auteurs en Hauteur, connue pour son festival annuel, innove en cette fin d'année 2024, Julie Gay.
C'est bien dit, Auteurs en Hauteur. Et oui, elle innove en créant un calendrier de l'Avent littéraire, une manière originelle d'attendre Noël avec des petites surprises, eh bien, littéraires chaque jour.
Le festival lui-même attire déjà beaucoup de passionnés chaque année, ça donne envie cette nouvelle manière d'aborder la littérature.
Et oui, et j'en puis en parler avec celle qui est derrière tout ça, elle chapeaute tout du festival au calendrier tout. De l'Avent, elle s'appelle Sophie au bord et elle nous a d'abord rappelé le concept du festival.
C'est un festival de rencontres littéraires sur les Hauts-de-Montreux. On profite d'un cadre magnifique entouré de nature pour rencontrer des auteurs suisses romands.
J'allais dire, le but de festival, c'est de mettre en lumière les écrivains et écrivaines de la région. Car il y en a, il ne faut pas les oublier ceci et lire les grands Marc Lévy, voilà.
Exactement, ils sont tout autant talentueux, on a énormément de talents près de chez nous. Et puis le festival s'intéresse à eux, s'intéresse à leur parcours, s'intéresse à leurs écrits. Et puis on augmente aussi la portée du festival. On ne s'arrête plus qu'à la littérature pure et dure, on ne regarde pas seulement les romans. On va s'intéresser à l'écriture au sens large. Dimanche dernier, on a rencontré Gaëtan, le chanteur-compositeur, pour s'intéresser à l'écriture de chansons.
Parce qu'on est encore au cœur du festival, c'est un festival qui s'étend de mai à décembre. Il reste encore une rencontre. On doit s'attendre à quoi pour cette dernière rencontre de l'année ?
La dernière rencontre de l'année est en décembre, donc on essaye de créer un univers absolument féerique, magique, pour transporter de plus en plus les participants. Cette dernière rencontre a lieu le 7 décembre à 14h et on a l'immense chance de recevoir l'auteur et l'illustrateur Denis Corman, qui a notamment fait trois ouvrages absolument magnifiques sur les contes suisses et un autre livre, une histoire sur le colibri.
En attendant cette dernière rencontre et le prochain festival qui débutera en mai de 2025, vous avez évoqué la création d'un calendrier de l'Avent littéraire. Comment elle est venue cette idée et qu'est-ce que c'est finalement ?
Je crois que cette idée, elle rejoint le but principal du festival, c'est-à-dire faire connaître les talents de chez nous. Et puis faire plaisir au festival, on adore faire des cadeaux. On offre beaucoup de livres, on fait beaucoup de concours pour que les gens puissent s'offrir les livres. On sait qu'on n'a pas tous un panier de la ménagère où on peut s'acheter beaucoup de livres. Et le but, c'est de pouvoir en profiter, c'est de pouvoir se nourrir des talents qui sont à côté de chez nous.
Alors, c'est l'occasion de promouvoir justement les écrivains qui ont participé au festival. Comment il est conçu ? Alors, ça se passe comment dans la pratique ?
C'est d'abord un immense plaisir parce que tous les auteurs et les autrices du festival ont offert eux-mêmes leurs livres. Donc, ils sont vraiment extrêmement enthousiastes à cette idée. Et puis, en fait, dans la pratique, il va y avoir dès le 1er décembre. Et ce, pendant 24 jours. Donc, deux calendriers de l'Avent. Un qui est destiné aux enfants et un qui est destiné plutôt aux adultes. Et puis, il faudra simplement commenter la publication sur Instagram pour s'y inscrire. Et ensuite, ce sera sur tirage au sort.
Une ambition donc de promouvoir la culture littéraire suisse de la région encore plus auprès des publics de tous âges. On le voit dans ces deux formes de calendrier. Les enfants, on les laisse pas sur le bas-côté. Il faut s'intéresser à eux finalement. C'est eux la prochaine génération.
Je vais généraliser un peu, mais on parle beaucoup des écrans et de la place qu'ils prennent dans les écoles. On rajoute des écrans. Et moi, j'ai envie de faire l'inverse. Alors, même si dans les écoles, il y a beaucoup de livres, ils sont parfois amenés d'une certaine manière qui ne nous donne pas forcément envie. On est quand même plusieurs à avoir certains blocages pour lire un gros livre, par exemple, pour s'intéresser à la littérature. Alors, nous, on essaye de prendre le problème un peu à l'envers, c'est de rencontrer la personne, c'est de créer un lien avec. Et puis, c'est ça qui nous donne envie de lire, je pense. Quand on connaît l'auteur, quand on connaît son parcours, qu'il nous raconte pourquoi il a écrit ça, comment il a dessiné ça, et qu'on peut peut-être même faire parfois avec, ça prend une autre dimension qui est majestueuse et qui donne vraiment envie.
D'ailleurs, expérience faite, outre le calendrier que vous lancez, qui est destiné aussi aux enfants, l'occasion de les avoir rencontrés déjà pendant le festival, ces enfants, et ça fonctionne.
Oui, les rencontres pour les enfants sont toujours complètes avec une liste d'attente, parce qu'effectivement, il y a des rencontres qui sont destinées plutôt aux adultes, les enfants sont toujours bienvenus, et il y a des rencontres qui sont plus destinées aux enfants. Et puis, dans ce cadre-là, il y a aussi des journées qui se mettent en place avec les écoles de la région pour qu'ils puissent venir participer au festival et sortir de l'école pour s'intéresser à l'apprentissage de la lecture, la création d'un livre, etc.
Oui, parce qu'en parallèle de tout ça, de ce festival qui dure de mai à décembre et le lancement de ce calendrier, il y a encore d'autres choses qui sont faites, notamment des ateliers d'écriture et des concours d'écriture durant le festival, au début du festival. Ça vient englober un peu cette offre.
Exactement, tous les âges sont concernés. On ne fait pas de restriction d'âge. Il suffit juste d'être un tout petit peu curieux et de prendre un petit peu de temps pour venir s'inspirer. En fait, c'est ça qu'on va chercher au festival, c'est l'inspiration auprès des gens qui nous entourent, mais surtout auprès de soi. L'écriture, la lecture, c'est un prétexte en fait pour se révéler à soi. Le prochain rendez-vous pour un atelier d'écriture, c'est avec l'autrice Kelly Case. C'est la seule autrice suisse qui a écrit de la New Romance. La New Romance, ce sont les livres, ce sont des romans principalement qui vont s'intéresser à une histoire, que ce soit d'amour ou d'amitié. Il y a ces liens qui sont forts. Et puis là, on va apprendre à en écrire une, donc il n'y a pas de prérequis. Et le thème va être évidemment la New Romance de Noël, dans un café spécialisé dans les chocolats chauds à Montreux. Donc ça va vraiment être un rendez-vous très cosy.
Prochaine étape, du coup, le lancement du calendrier sera le 1er décembre. Vous avez mentionné que ça se passait notamment sur les réseaux sociaux, Instagram, peut-être le nom du Instagram pour les auditeurs.
Auteur en hauteur, donc c'est auteur avec ES en hauteur, voilà le jeu de mots.
Ce calendrier d'avant et ce festival qui n'est pas terminé en décembre finalement, puisqu'une prochaine édition viendra en mai. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans les grandes lignes? Peut-être un petit spoil de votre part.
Avec plaisir. Alors effectivement, le festival, la troisième édition débutera en mai avec en tout cas 8 rencontres. En mai, on aura la chance de faire le vernissage de l'atelier de bande dessinée que nous sommes en train de réaliser avec le restaurant de la Cerniola et le parc Gruyère Pays d'en haut. Donc cette association va donner lieu à un magnifique vernissage sur le thème de la BD le 5 mai prochain. On aura comme spécial guest 2 invités d'honneur qui nous font une immense fierté de venir au festival. Il s'agit de Claude Deribeaupierre et Arnaud Deribeaupierre, donc alias Derib, qui sera là pour nous offrir la première rencontre du festival. Ensuite, beaucoup de surprises, des rencontres absolument majestueuses dont on est vraiment très très fiers au festival et on les remercie énormément, tous ces invités, de venir partager avec nous leur passion, avec vous leur passion, et aussi une personne que vous connaissez bien, que vous voyez régulièrement à la télévision, qui va venir nous parler de ses livres et aussi de la composition de la comédie suisse romande. Il s'agit de Vincent Cuchol.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Valérétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
En Suisse, on en a plein. Je pense qu'il y a plus de ça en Suisse que des trous dans tous les Emmentalers de Suisse réunis. On parle de fort et pour en parler ce soir, je suis avec Thierry Duda. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci.
Vous êtes co-responsable du fort d'Eviona.
Exactement.
Qui est un ancien fort de l'armée suisse, qui, comme tous les forts, vous me le disiez en micro, a été classé secret défense pendant quelques années. Entre quelle année et quelle année?
Alors, le fort a été construit en 1940 et ouvert en 1942 et en activité jusqu'en 1995.
Donc, en fait, il a été créé lors du Réduit National.
Voilà, exactement, pour le programme du Réduit National.
Durant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, bah, tip-top, un fort, c'est quoi, monsieur Duda?
Alors moi, j'aime bien dire que l'un fort, c'est un peu le sous-marin nucléaire de la Suisse. C'est le truc qu'on a pour faire peur aux autres et puis pour les dissuader de nous attaquer, et ça a assez bien marché.
J'aime bien l'image de sous-marin nucléaire, parce que bon, effectivement, nous, je pense que ce serait difficile de mettre un sous-marin nucléaire dans l'élément. Mais là, ça a vraiment un effet dissuasif, vous dites.
C'est ça, en fait. Il y en a eu plus de 1000 qui ont été construits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a fait partie de l'élément dissuasif contre une invasion de nos ennemis, et qui ont recalculé la chose à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, ben, finalement, ça valait pas le coup.
Oui, parce que durant la Deuxième Guerre mondiale, ben, faut savoir que la Suisse était un pays neutre. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont créé tous ces forts et tout ça? C'est parce que la Belgique, la Hollande, le Danemark étaient aussi des pays neutres et ils se sont fait envahir directement.
Exactement.
Donc ça valait la peine finalement de creuser des galeries avec toutes ces montagnes qu'on a pour y dissimuler de la défense.
C'était ça exactement le but en fait, c'était vraiment ralentir au maximum l'envahisseur, lui montrer qu'en entrant en Suisse, en tentant d'entrer en Suisse, il serait tellement ralenti pendant très longtemps qu'à la place d'une simple invasion en 6 semaines, eh bien, on allait peut-être y passer 6 mois, du temps, de l'argent, des munitions, des hommes, et puis au final avoir rien du tout, parce que le système était prévu pour que les ports, les ponts, les tunnels et les cols soient détruits au fur et à mesure pour permettre à l'armée de se replier dans les montagnes avec une partie de la population. Donc au final, quand ils ont fait le calcul, ben, ils se sont aperçus que ça valait pas le coup.
C'est ça, c'est finalement c'est dur à dire, mais c'était un calcul de coût que les possibles envahisseurs qu'on aurait pu avoir à l'époque, et ben, ils ont fait non, mais ça vaut pas la peine en fait, on va perdre trop d'argent et d'hommes.
C'était ça, puis en plus, ben, après il y a eu le cours de l'histoire qui a fait que plusieurs fronts se sont ouverts, et puis pour les Allemands et les Italiens, c'était plus du tout possible, même matériellement, de pouvoir venir en Suisse, et puis plus du tout intéressant.
Oui, d'autant plus que bon, effectivement, il pouvait y avoir des business, mais il faut savoir que les premiers avions allemands abattus étaient des Messerschmitt, il y en avait 8, et ils ont été abattus par des Messerschmitt suisses, parce que la Suisse avait quand même l'ordre de riposter à n'importe quelle invasion, peu importe de quel côté elle vienne.
Exactement. Donc en fait, ils se sont défendus à chaque fois qu'une armée étrangère est arrivée en Suisse à survoler, il y a à chaque fois eu une interception ou un combat qui a été fait.
Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis qu'on revienne juste après pour continuer à parler du fort, mais plus précisément du fort d'Eviona et de ce qu'on y fait. Merci et à tout de suite.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Radio Rétro, Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Un fort, selon la définition de Thierry Duda, qui est co-responsable du fort d'Eviona, et j'aime bien le simile, un fort, pour la Suisse, c'est un peu comme un sous-marin nucléaire. C'est une arme de dissuasion. Il s'en est construit plus de 1000 durant la Deuxième Guerre mondiale dans le plan du réduit national. Le but était finalement de pouvoir protéger la Suisse contre tout type d'invasion. En fait, que tout envahisseur qui désire pénétrer en Suisse, le coût en hommes, en temps, en argent et en munitions lui soit tellement grand que ça le dissuade de venir envahir. Parce que même si la Suisse était neutre, eh ben, ça reste un pays envahissable, hein. On a bien vu la preuve avec le Danemark, la Belgique ou encore la Hollande qui sont fait envahir, mais alors largement. La Suisse a profité de son relief pour construire ses forts dissimulés dans la montagne ou encore ailleurs. Mais là, il s'agit de montagne puisque c'est celui d'Eviona qui nous intéresse. Un fort qui a été classé secret défense jusqu'en 1995.
Exactement. Jusqu'en 1995, les gens qui étaient dans la région ne savaient pas ce qu'il y avait là-bas.
C'est marrant parce que j'ai un collègue, mon cher Bastien, qui me disait, mais moi j'ai grandi à Eviona, je savais pas qu'il y avait un fort à Eviona, monsieur Duda. Donc les gens d'Eviona, ils savaient pas.
En fait, non, on savait pas. Et je dois dire même que moi, il y a quelques années, je l'ai cherché et je l'ai pas trouvé. Et c'est là, en fait, parce que ce fort fait partie de l'association Pro-Forteresse, que je me suis intéressé à l'association Pro-Forteresse. Et puis que, je suis vraiment allé voir de plus près où c'était. Et j'ai fini par trouver l'entrée.
Alors, encore aujourd'hui, enfin voilà, il n'y a pas de panneau vraiment indiqué, il faut vraiment savoir où on va.
Il y a un petit panneau qui est inscrit dans le village, parce qu'en fait, le fort a été pendant pas mal d'années ouvert au public, c'était une visite libre qui était faisable en famille, on pouvait acheter un billet à l'entrée, il y avait un vieux camion militaire qui permettait d'acheter un billet et d'aller se balader dans une partie des couloirs. Mais en fait, une grande partie du fort, il faut savoir qu'il fait plus de 1000 mètres de long en termes de galerie, une grande partie de ce fort
rien
était
que
fermée.
De long.
Rien que de long, ouais.
Rien que de long, c'est-à-dire
ouais.
Avec toutes les galeries, est-ce qu'on sait plus ou moins combien c'est?
Ouais, on est à 1500, 1200, 1500 mètres de galeries au total.
Waouh! Et ça, maintenant, aujourd'hui, on peut le visiter grâce à vous, grâce à votre association. Et comment est-ce que ça se constitue?
Alors, l'association, c'est l'association Pro-Forteresse, qui est propriétaire de plus de 50 ouvrages dans la vallée du Grand Saint-Bernard et du fort d'Eviona. C'est le fort de Champais, le fort de Commères et le fort d'Eviona pour les trois plus grandes infrastructures. Et puis, effectivement, avec mon collègue Yann Cazorla, qui est instituteur à Fuilly, donc je peux profiter de ses connaissances en histoire pour améliorer le parcours didactique du fort. On a mis ça en place maintenant depuis le mois d'août. Et puis, on commence à ouvrir les portes. On a les premiers groupes qui viennent nous voir.
Et c'est tout nouveau. Et justement, d'un point de vue, vous parlez du parcours. Par quoi on va, pas forcément faire toutes des étapes parce qu'il faut quand même que les gens aillent le découvrir, mais pour donner un petit peu envie, par quoi on va passer, par exemple?
Nous, on est des passionnés d'histoire militaire, et on veut vous faire vraiment partager cette aventure, cette expérience de rentrer dans un fort qui était secret défense. Vous aviez pas le droit de dire ce que vous y faisiez, pas le droit d'y dire où c'était. Et donc, en fait, de vous faire partager cette histoire et de vous montrer comment ça a été construit, comment est-ce qu'on défendait un fort, qui le défendait, et puis ensuite parcourir à travers une première galerie qui fait 350 mètres de long, ce qui est à peu près unique. En tout cas, moi, j'en connais pas d'autres et j'en ai visité pas mal. Et on a 350 mètres de galerie taillée dans la roche et qui ensuite débouche sur les parties cantonnement, les parties combat. Et là, on explique toute l'histoire du fort, comment est-ce qu'il a fonctionné, qui était dedans, qu'est-ce qu'ils y faisaient. Et on a reconstitué les différentes chambres, les différentes messes des officiers, magasins de munitions. Et on a une petite partie avec un petit musée militaire suisse où on trouve une évolution de l'équipement du militaire suisse depuis 1878 jusqu'à 1990. Et maintenant, il y aura bientôt un nouvel équipement, mais je crois que l'armée ne veut pas nous le donner encore.
Oui, alors, je pense que si les recrues ne l'ont pas encore, non, j'imagine bien que pour amuser, peut-être pas encore tout de suite. Mais par contre, qui était, on reviendra dans un petit moment sur l'équipement, mais qui étaient ces soldats qui défendaient ce fort et qui étaient préparés pour combattre depuis ces forts?
Alors celui-ci à Eviona, c'est un fort d'infanterie. C'est encore quelque chose qui est particulier, c'est qu'on trouve des forts d'artillerie et des forts d'infanterie. Dans les forts d'artillerie, on y trouve des canons lourds qui vont jusqu'à des calibres 150, avec souvent 200-300 hommes qui étaient à l'intérieur, répartis en des soldats de forteresse, des soldats d'infanterie, des soldats de d'artillerie. Et puis là, le fort d'Eviona a cette particularité que c'était en fait une défense anti-char. Donc on a une défense anti-char qui traverse toute la vallée du Rhône de part en part, qui fait 1,5 km de long, qui est donc délimité par ces Toblerones ou dents de dragon, comme on dit. Voilà.
Et puis ces blocs en béton qui sortent de terre, mais qui en fait sont plantés à 6 mètres sous terre.
Alors, ils sont pas aussi profonds que ça, mais c'était bien prévu pour que le char en fait monte dessus, puis découvre en fait le dessous du véhicule et qu'on puisse, puisque c'est sa partie qui est en fait vulnérable et que les soldats puissent le détruire de cette façon.
Oh, donc c'est pas seulement pour stopper.
C'est pas juste pour bloquer, non.
C'est pas juste pour bloquer, non. C'est pour qu'il essaye de le passer, puis quand il passe, ben là on peut tirer dessus dans sa partie la plus.
Une arme anti-char.
Waouh, ok, d'accord. Et au fort d'Eviona, donc c'était 300 hommes qui étaient cantonnés là. Il y avait des gens.
Alors pas Eviona. 300 hommes, on avait ça à Champé. À Eviona, on est environ 100 à 150, une petite compagnie, on va dire, qui était répartie entre l'intérieur du fort qui est sur 4 étages et dont 130 marches d'escalier taillées dans la roche. Et une partie de l'effectif qui, lui, était stationné dans le village avec les cuisines principales et les réfectoires et les dortoirs principaux.
Donc là, on a des gens qui sont dans le village, on n'a pas de caserne aux alentours, et ils doivent faire en sorte de ne pas être vus, ou est-ce qu'ils pouvaient se balader avec des habits militaires ou pas du tout?
Alors oui, bien sûr. Là, en fait, pendant la mobilisation, la région en fait était gardée, la région était bloquée. Donc il y avait les militaires étaient là, ils étaient en poste. On avait de l'infanterie, on avait de la mitrailleuse, du lance-mine, et on avait les équipages dans les forts qui eux gardaient les emplacements avec des mitrailleuses et des canons anti-char.
Et c'est complètement fou ça. Et est-ce qu'on sait combien de temps ça a pris pour construire cette fortification?
Alors celle d'Eviona, on a une première partie qui date de 1936, qui est là maintenant l'ouverture principale, l'entrée principale, qui était la défense passive anti-aérienne du village d'Eviona. Et puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1940, la décision est de construire ce fort-là, comme plein d'autres d'ailleurs. Et en 1942, il est opérationnel et la troupe en prend possession.
En deux ans, entre le moment de la décision, dis donc.
Et c'est pas le seul qu'ils ont construit en deux ans.
Oui, c'est ça, parce que le Raid du National, je crois savoir que c'est le général Dufour qui a été visité qui avait été visité la ligne Maginot avec toutes ces fortifications, puis qui s'est dit, ok, il faut qu'on fasse un truc similaire, avec la petite différence qu'on va le mettre en pente à chaque fois en dévers pour comme ça, s'il peut pas nous inonder, comme c'était arrivé malheureusement dans la ligne Maginot en France. Mais c'est ça, en fait, on va en deux ans construire plus d'un millier
exactement
de fortifications.
Et ça, dans le secret le plus total,
c'est
et
ça.
Que la population n'a quasiment jamais su. On découvre, en fait, maintenant, depuis quelques années, on a le fort de Chillon, on a le fort de Prégirou. Chez nous, chez Proforteresse, Commer et Champey, qu'on fait visiter régulièrement. Effectivement, les gens découvrent ça depuis des années, depuis quelques années seulement.
Ça fait 80 ans qu'on a lancé la construction, gentiment, ouais. Un peu plus. Et c'est maintenant plus de 20 ans, c'est gentiment une trentaine d'années. Bientôt, l'année prochaine, ça fera 30 ans que certains de ces sites sont déclassifiés. Ouais. Et c'est gentiment que ces dernières années qu'on commence à avoir droit d'y accéder. Mais est-ce que c'est parce que l'armée a voulu les garder en réserve au cas où?
L'armée les a gardés en grande partie en réserve pendant un moment. Il y a même encore actuellement des forts qui sont déjà décommissionnés, que l'armée n'utilise plus et qu'elle ne vend pas à cause de la situation actuelle un peu à travers le monde et qu'elle garde en réserve, on ne sait jamais.
En sous-main. Et puis, est-ce qu'on peut vous parler de ce que vous aviez à l'intérieur du fort? Vous me disiez tout à l'heure, hors micro, qu'il y avait même encore quelques canons. Et puis, il y avait deux canons et trois mitrailleuses, c'est ça?
On a deux canons de 9 cm, canons anti-char, et puis trois mitrailleuses, dont deux qui sont sur affût, que les gens peuvent manipuler, voir, toucher. Et une mitrailleuse qu'on a maintenant déplacée dans le petit musée qu'on a fait dans l'ancien local de munitions. Et qui est sur un affût de campagne pour qu'on puisse voir comment c'était disposé.
Oui, alors on précise que ce sont tous des armes qui ont été
100% neutralisées, démilitarisées.
Exactement.
On n'a pas le droit de tirer sur les maisons du village.
Ouais, c'est dommage, mais c'est dit, mais peut-être pas sur les maisons du village, mais des cibles en face. Mais ça risquait d'être un petit peu problématique, on peut imaginer.
Non, c'est clair.
Et parlons un petit peu de ce musée. Alors déjà, on parle depuis la guerre du Sonderbund. Avant la guerre du Sonderbund, on n'avait pas d'uniforme. Et puis quelques années après cette guerre, qui est la dernière guerre qu'il y a eu en Suisse, oui. En 1848. Dans les années 70, 1870, là, on crée un uniforme. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu tout ce concept ?
Alors, en fait, effectivement, donc, on avait des armées cantonales jusqu'à ce moment-là.
C'est fou, ça.
Oui. Et puis là, sous l'impulsion du général Dufour, on crée, en fait, une armée nationale qui prend ses quartiers à Thun, dans une caserne qui existe encore toujours et qui s'appelle toujours, d'ailleurs, la caserne Dufour, en tout cas en partie. Et puis, en fait, ben, à ce moment-là, on équipe les gens avec un uniforme. Et les soldats qui rejoignent l'armée de la Confédération suisse reçoivent tous le même uniforme en fonction de l'implication, de l'attribution qu'ils vont avoir.
Donc, on parle avant d'équipement militaire. Et là, par son uniformité au sens propre du terme, c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'uniforme pour, pour l'armée suisse.
Exactement.
Et est-ce que vous me disiez aussi, vous aviez un petit musée à l'intérieur sur l'équipement militaire, sur l'histoire et l'équipement militaire.
Voilà, donc on peut voir toutes les évolutions. Ensuite, 1890, 1914, 1940. Ensuite, les années 50, 70, 80, avec une petite évolution encore une fois. Et puis après, l'équipement 90, avec des pièces qui ont été mises là et des pièces modernes. Donc on peut vraiment voir l'équipement du soldat comme il a évolué en partant du chapeau en feutre, en arrivant jusqu'au casque en Kevlar, en fait.
Ouais, donc on va pouvoir aussi toucher ces objets-là ou
alors
pas trop
ceux-là, on peut pas les toucher parce que c'est vraiment des objets de collection et on a de la chance d'avoir des collectionneurs passionnés qui nous ont mis ces pièces en nous disant attention, ce genre de pièces-là, même à Thun, ils les ont pas. Donc, on est assez fiers de pouvoir les montrer, mais ceux-là, on peut pas les toucher.
Surtout que Thun, c'est pas une des plus grandes places d'armes.
C'est la plus grande place d'armes.
Et potentiellement la plus ancienne aussi.
Je pense que ça doit être une des plus anciennes. Ouais, je suis pas un grand spécialiste à ce niveau-là.
Mais voilà. Ben, en tout cas, ça donne envie. Où est-ce qu'on peut aller trouver toutes ces informations pour venir vous voir, en plus de pouvoir comme ça chercher l'entrée?
Alors nous, on est disponible, bien entendu, comme tout le monde, sur Facebook, sur Instagram. On a la chance d'avoir une community manager qui s'occupe de ça. Notre site internet n'est pas vraiment à jour, donc évitez-le, tout simplement. Allez sur Facebook et Instagram, c'est plus efficace.
Et qu'est-ce qu'on tape? Fort des Vionnats?
Voilà, vous tapez Pro Forteresse ou Fort des Vionnats et vous allez nous trouver. Et puis, ben, si jamais, le 7 décembre, à 10h30 du matin, on organisera une visite guidée pour tous les gens que ça intéresse. Donc, vous pouvez aller sur Internet, donc sur Facebook et Instagram pour prendre les informations. Et vous serez les bienvenus pour faire une visite d'à peu près 1h30, voire 2h, si je suis en forme.
Surtout que, espérons-le, surtout que là, potentiellement, il y a des personnes qui ont été dans ce fort.
Alors ça, ce serait extraordinaire. S'il y a quelqu'un qui a fait son service à Eviona, il faut absolument qu'il nous contacte parce qu'on a tellement de questions à lui poser et personne ne peut nous répondre.
On lui déroulera le rideau parce que cette personne-là, on est d'accord, c'est ça?
Ah oui.
Bon, ben voilà, le message est lancé. Si quelqu'un a fait son école, son service militaire à Eviona, contactez une fois de plus le nom de la
Pro Forteresse.
Pro Forteresse. Et puis sur Facebook, Instagram, Pro Forteresse ou Fort d'Eviona, on vous trouve le 7 décembre. On peut aller dès 10h faire une visite guidée, mais quelle chance de découvrir un petit peu. Bon, on l'appelle pas pour rien la Grande Nuette, l'armée suisse.
Ah non, c'est sûr. Toutes les armées s'appellent comme ça.
On est d'accord. Et là, on peut la découvrir. Merci infiniment Thierry Duda. Je rappelle que vous êtes co-responsable du fort d'Eviona. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer. Et puis j'espère que ça aura donné envie aux gens d'aller visiter. Moi en tout cas c'est le cas.
C'était un grand plaisir, vous êtes les bienvenus.
Merci beaucoup, excellente soirée et à bientôt. Merci.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
C'est chaud. Sur le grill.
La revue de Lausanne, c'est au pavillon Naftul, c'est sur les quais justement à Lausanne, dans un écrin assez incroyable que ce nouveau pavillon Naftul. Joseph Gorgoni, bonjour.
Bonjour.
On imagine que pour vous, le grand ami de Pierre Naftul, Naftul qui vous a aidé, qui vous a mis entre guillemets un peu le pied à l'étrier, qui a toujours collaboré avec vous, qui était votre producteur, et pas bon procureur, qui a écrit pour vous, il y a un hommage et une symbolique qui est assez incroyable d'être ici.
Bah bien sûr, enfin c'est Pierre Naftul, pour les gens qui me connaissent depuis maintenant plus de 30 ans, on a tout fait ensemble, c'est-à-dire qu'on a créé Marie-Thérèse, on a créé toutes les émissions, les tournées du cirque et tout ça, on a travaillé ensemble. Et puis, quand il est décédé, en fait, on s'était, avec Sébastien Corsesi, on s'était dit qu'on allait faire une fondation, c'était compliqué. Et finalement, l'idée du pavillon Naftul est venue assez vite, on s'est dit que c'était peut-être pas mal d'avoir une scène où les artistes suisses, et en particulier suisses romands, puissent se produire. Et je suis sûr que ça lui aurait beaucoup plus ce projet-là. Et puis c'est Naftul, sans Pierre Naftul, on serait pas là. Enfin moi j'aurais fait des choses, mais pas de cette manière-là. Et Blaise Berzinger pareil, Thomas Wiesel, Sébastien, enfin c'est lui qui nous a fait gagner beaucoup de temps, on va dire.
Cette revue, vous y participez, mais par contre, vous avez annoncé que c'est la dernière. Alors déjà, juste avant de parler de dernière, mais qu'est-ce qu'on va y trouver ? Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette revue de Lausanne ?
Alors, c'est une revue, les trois avant-premières qu'on a faites à Cossonay nous ont beaucoup rassurés, parce que les gens ont beaucoup, beaucoup ri. Le fil rouge, c'est la presse, en fait. La presse qui est en train de disparaître et tout ça. Donc, au milieu de tout ça, on trouve l'actualité qu'il y a eu cette année, le Birkenstock. Il y a c'est difficile à dire comme ça. Il y a Marie-Thérèse, évidemment. On va retrouver Marie-Thérèse qui n'aime pas tellement les bobos de Lausanne. Il y a un sketch sur les fausses alarmes qu'il y a eu cette année à Lausanne. Enfin, voilà. C'est une espèce de condensé de l'actualité de l'année. C'est très amusant. Il y a plein de... c'est très... Je ne veux pas vous dévoiler les choses avant que les gens viennent la voir. Mais en tout cas, je crois qu'on rit beaucoup. Et c'est assez agréable pour nous et rassurant de voir que les gens rient, quoi.
Une revue aussi, ça se réécrit régulièrement. C'est un travail assez intense. Comment vous travaillez un peu au quotidien ou à la semaine ?
Là, pour l'instant, le spectacle est écrit. On vient de commencer. Donc, c'est... Si l'actualité... S'il y a des grands faits d'actualité qui évoluent, forcément, on va en parler. Mais je pense que ça va pas trop bouger jusqu'à la fin de l'année. L'écriture est faite, ça a pris beaucoup de temps. On a beaucoup travaillé en amont, on a eu 8 semaines de répétition. Et puis là, depuis les premières, on a déjà coupé beaucoup de choses, réadapté un peu. C'est le spectacle vivant, donc forcément, ça bouge un peu tout le temps, quoi.
Alors, le spectacle vivant, justement, c'est une sacrée ambiance. Vous l'avez dit, c'est votre dernière revue. Forcément.